Voilà. Pause rapide, hein. On va commencer par les questions. Il y a eu une question notamment sur ce fameux fleuve Ulai,
Oui,
pour
j'ai
savoir
vérifié.
si ça correspond encore à quelque chose aujourd'hui.
Absolument, il existe toujours. Il est en Iran en grande partie. C'est le fleuve Karoun, Karoun. Mais par contre, quand on cherche l'article dans le nouveau dictionnaire biblique d'Emmaüs, on le trouve sous Oulai, donc avec OU plutôt qu'un U. Et puis, Pache, il mentionne que le cours de ce fleuve-là a été beaucoup modifié dans l'histoire. Donc, c'est vrai que, voilà, il est peut-être pas situé peut-être exactement au même endroit dans une grande partie. Certainement qu'il y a des endroits qui sont toujours les mêmes, mais si l'histoire a modifié le cours du fleuve, là, ben, c'est possible qu'il soit changé. Mais c'est bien le Caroun en Iran. Il existe toujours, oui.
Ouais. Autrement, il y a une personne qui nous signale que la Palestine, alors je sais pas quelle est la source, un livre historique ou quoi, est mentionnée seulement en 135 environ après Jésus-Christ. Et
Oui,
puis là, tu en as fait mention en lien avec le territoire d'Antiochus, donc on se situe avant Jésus-Christ, si tu peux élaborer là-dessus.
non, c'est juste une erreur qu'on fait souvent parce que, en fait, c'est une façon d'identifier le pays d'Israël parce que même ce que la personne a souligné comme problème, on le voit dans un dictionnaire actuellement qu'on traduit chez Publication chrétienne. Il y a beaucoup d'articles qui parlent de la Palestine à une époque que le mot n'existe pas. Mais c'est simplement une question d'identification du pays d'Israël, mais on devrait simplement dire pays d'Israël. C'est vrai que c'est surtout les Romains qui ont utilisé ce terme-là en lien avec Israël. Mais j'ai déjà vu quelque part, je ne me rappelle pas trop où, mais que le terme avait été utilisé aussi par les Grecs, mais possiblement vers la fin de cet empire-là. Pardon, René Pache nous dit ceci. Non, que les Grecs et les Romains donnèrent à toute la contrée habitée par les Israélites et qui lui est restée depuis ce temps-là. Donc, je ne sais pas si il nous donne une date ou à peu près là, du début de l'utilisation de ce terme-là, mais les Grecs utilisaient déjà le mot Palestine.
Ok, magnifique. Alors, il y a juste une dernière question qui arrive maintenant. On va la traiter, puis après on repartira dans le texte, sachant qu'il y a une question sur le verset 23, mais on attendra que tu arrives sur le verset 23 avant de l'évoquer. Donc,
OK.
ces prophéties des quatre royaumes sont utiles pour montrer la fiabilité biblique aujourd'hui. Mais ont-elles vraiment été utiles aux Juifs avant ces événements pour mieux les comprendre? Les prophéties restent parfois floues. Dieu cherche-t-il vraiment à nous faire connaître l'histoire à l'avance ou bien le but est autre?
Ben, et on va le voir à la fin du chapitre en particulier, hein, parce que même si la fin n'est pas évidente, le dernier verset nous dit « Et je fus stupéfié de la vision, mais personne ne l'a compris. » Donc, je veux dire, c'est vrai que même aujourd'hui, en fait, la prophétie de Daniel est claire par la suite de l'histoire, mais c'est vrai qu'au temps de Daniel, il devait y avoir des choses qui n'étaient pas claires, même pour lui-même, hein, parce que il est stupéfié, puis le texte pourrait même vouloir dire « Et je ne compris rien de tout cela ». D'ailleurs, vous lirez les versions françaises, c'est assez partagé entre « Personne ne le compris » ou « Moi-même, je ne le compris pas ». Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont moins claires dans la prophétie biblique, mais qui vont le devenir au fur et à mesure que les choses s'accomplissent. Et pour moi, la prophétie d'Apocalypse 13 entre dans ce genre de contexte-là où le nombre de la bête n'est pas quelque chose à comprendre maintenant, mais qui le sera par ceux qui vivront cette décision, ce choix-là de recevoir ou non la marque de la bête. Et ils auront l'intelligence requise pour prendre une décision éclairée. Donc, tu vois, aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne d'essayer de comprendre le 666? Je veux dire, on sait qu'il y aura quelque chose qui va indiquer clairement de quoi il s'agit, mais pour maintenant, ça reste flou. Ça reste une prophétie qui n'est pas très, très claire pour nous, même si on sait que c'est un signe qui donnera une confirmation. Probablement qu'on peut voir dans le livre de Daniel aussi Voilà, c'est une prophétie. Dans la version seconde, il parle même d'une prophétie qui reste scellée. Dans le verset 26, ça dit « Et toi, serre la vision » dans la Darby, mais dans la version seconde, ça dit « Scelle la vision » comme si elle n'était pas pour être reçue ou comprise maintenant. Les choses vont simplement suivre leur cours. Mais la prophétie de Daniel n'est pas forcément une révélation pour ceux qui vivent de manière contemporaine, dans le sens où ils puissent tout comprendre ces choses-là. Même si on a des explications données, hein, parce que même si on n'a pas les détails, on sait de qui il s'agit clairement. Il pouvait savoir qu'il y aurait l'empire des Mèdes et des Perses. Il pouvait savoir qu'il y avait l'empire des Grecs qui allait suivre et probablement même celui des Romains par l'identification de l'île de Kittim au chapitre 11. Mais pas autant dans les détails qu'aujourd'hui, ça c'est clair.
Merci.
Est-ce que j'ai bien répondu?
Je crois. Et si ce n'est pas le cas, ben, je laisse la personne qui a posé la question se manifester. Et puis une dernière remarque de Jacques, Palestine vient de Philistin, peuple établi depuis longtemps dans la région.
Oui, exact. C'est ce que Pache dit aussi, oui.
Parfait. Donc, on te laisse continuer, Gilles.
OK. Alors, après toute cette vision de l'Empire médo-perse et de l'Empire grec, des quatre généraux grecs et aussi, bien entendu, d'Antiochus Épiphane, eh bien là, Daniel, c'est beaucoup pour lui. On comprend, hein, c'est un homme comme nous, après tout. Sans l'intervention de Dieu, comment tenir debout devant une telle révélation? Et nous lisons ceci au verset 15. « Et il arriva que lorsque moi, Daniel, j'eus vu la vision, j'en cherchais l'intelligence et voici comme l'apparence d'un homme se tint vis-à-vis de moi. » Quand il parle de chercher l'intelligence, ça signifie littéralement, il essayait de comprendre. Il essayait de comprendre, essayait de faire les liens avec tout ça. Bon, comme on vient de le voir ou d'en parler, il pouvait saisir qu'on parlait des empires mondiaux. Ça, je pense que Daniel, pour lui, c'était clair. Mais c'est toute l'implication de tout ce qui suivait par la suite, tous les détails d'Antioche, Épiphane, tout ça, là, ça allait être connu beaucoup plus tard. Alors, lui-même, déjà, cherche à comprendre tout cela. Et c'est là que l'apparence d'un homme se tient vis-à-vis de lui. Ce qui est intéressant, c'est que le terme qui est utilisé pour le mot « homme » ici, c'est « gaver » en hébreu, qui vient du mot « givor », qui signifie « puissant ». Et « gaver », c'est un homme puissant. Mais « gaver » ou « gaber », si vous préférez, c'est l'origine même du nom Gabriel. Et d'ailleurs, le verset suivant confirme qu'il s'agit bien de Gabriel. Alors, l'expression, l'apparence d'un homme se teint vis-à-vis de moi, c'est une façon d'introduire Gabriel pour dire un homme puissant. Sous l'apparence d'un homme, bien entendu, c'est un ange qui est là, puissant, et c'est Gabriel. Et Dieu se révèle dans des anthropomorphismes, c'est-à-dire en utilisant des manières humaines ou un langage humain pour se révéler pour que l'homme puisse comprendre et saisir dans la mesure où Dieu veut que ces choses soient comprises. Et c'est pourquoi nous lisons verset 16 que Daniel entendit la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï et il cria et dit « Gabriel, fais comprendre à celui-ci la vision et la voix d'un homme ici, c'est clairement un anthropomorphisme, c'est que Dieu utilise une voix humaine pour communiquer. Autrement dit, Daniel pouvait entendre comme s'il entendait une personne, un homme, un être humain parler et dire cela à Gabriel pour qu'il comprenne que l'ordre venait de Dieu et qu'il envoyait Gabriel pour révéler à Daniel, ce dont il est question, bien entendu, dans la mesure où Dieu le voulait. Et ce que j'aime beaucoup souligner, c'est que le verbe « faire comprendre » dans le verset 16 est exactement le même que le mot « intelligence » dans le verset 15. En fait, c'est de la même racine « bin » en hébreu, et donc ça signifie simplement que ce que Daniel cherchait à comprendre ou essayait de comprendre, eh bien, Dieu, dans sa grâce, dit maintenant à un ange, Gabriel, allez, va, donne-lui la compréhension nécessaire de ce qu'il vient de voir. Et Daniel nous place dans ce contexte-là au verset 17. Et il vint près du lieu où j'étais. Et quand il vint, je fus effrayé et je tombai sur ma face. Il me dit, comprends, fils d'homme, car la vision est pour le temps de la fin. Donc, Gabriel est envoyé vers lui et on voit toute la crainte de Daniel. C'est pas la seule fois où on voit ça. D'ailleurs, le verset 18, je vais revenir dans le 17, mais déjà au verset suivant, on lit ceci. Et comme il parlait avec moi, j'étais dans une profonde stupeur, ma face contre terre. Non, franchement, il était effrayé, mais vraiment effrayé de ce qu'il voyait, un peu comme dans 7:15, quand il a vu cette vision-là des bêtes, il était aussi effrayé. Ça m'a frappé à un moment donné de réaliser que dans l'Écriture, ceux qui ont des songes, des visions, des rêves venant de Dieu, souvent ils tombent malades, ils ont peur, ils sont mal. En fait, il y en a qui tombent raide mort ou presque, tellement c'est immense et c'est trop pour eux. Et je fais une petite parenthèse, mais ça me rappelle cette dame qui se disait chrétienne, qui était venue auprès de moi une fois, puis qui me parlait de toutes ses visions, ses songes qu'elle avait, et puis qui elle me disait des révélations apparemment de Dieu pour moi, entre autres, elle me disait que je m'habillais toujours en noir. Effectivement, elle a raison. C'est vrai que je suis habillé souvent en noir, puis elle me disait, ça c'est parce que tu es entouré de ténèbres, et Dieu m'a dit de te dire d'arrêter d'être dans les ténèbres, en tout cas, n'importe quoi, mais j'ai dit, je me rappelle avoir dit à cette dame, comment tu te sens quand tu as ces songes, ces visions? Ah, je me sens tellement bien, je suis comme dans la ouate, là, c'est tellement doux. Ben, j'ai dit, c'est drôle parce que dans la Bible, ceux qui ont des visions comme tu prétends avoir, ils sont tous malades, ils sont verts, ils sont dans la frayeur, ils tombent par terre et de mort. Il y a peut-être un problème avec la source de tes visions. Finalement, bon, je voulais juste faire une petite parenthèse, ça m'avait fait bien rigoler tout ça, mais c'est vrai que, oui, dans la Bible, là, voir des choses que Dieu révèle comme ça, ben, ça a l'air que c'est assez effrayant. Et je m'imagine un peu arriver dans un contexte comme celui-là, ça doit être assez impressionnant. Mais Dieu, dans sa grâce, hein, il redonne et relève en fait son serviteur, puis lui donne la compréhension pour la mesure de ce qu'il doit recevoir. Et puis, on voit que dans ses explications de cette vision, le verset 17 dit qu'elle est pour le temps de la fin. La petite corne dans le chapitre 8, dans ce chapitre-là, elle renvoie à Antiochus, un personnage grec qui est déjà passé. Mais tous les commentateurs ou presque s'entendent pour dire qu'elle préfigure aussi l'Antichrist de la fin des temps. Donc, on ne parle pas exactement de la même petite corne que dans le chapitre précédent. On avait vu au chapitre 7 qu'il s'agit de l'Antichrist de la fin des temps, la petite corne dans le chapitre 7. Mais ici, chapitre 8, c'est avant tout Antiochus Épiphane. Mais c'est vrai que cette petite corne-là, elle préfigure clairement l'Antichrist de la fin des temps. Et c'est peut-être pour cela que on voit cette expression au moins à trois reprises dans ce chapitre de Daniel 8, que la vision concerne aussi quelque part le temps de la fin. Et donc, clairement, cette expression-là est eschatologique. Elle nous amène vers la fin des temps, beaucoup plus loin que la période grecque ou la période d'Antiochus Épiphane. On voit d'ailleurs au verset 19, « Voici, je te fais connaître ce qui aura lieu à la fin de l'indignation, car à un temps déterminé sera la fin. » On voit la fin ici qui est mentionnée au verset 23. Verset 23, est-ce que c'est ça, le verset 23? « Et au dernier temps de leur royaume, les derniers temps en général, ça pousse vers l'eschatologie. » Mais dans le chapitre 8 de Daniel, il y a comme un équilibre entre la période des Grecs d'Antiochus Épiphane, mais une préfiguration des temps de la fin. Donc, disons, appelons-la comme ça, la période eschatologique, c'est-à-dire vraiment la période qui précède le retour de Christ et puis la révélation de ce personnage que Antiochus Épiphane pouvait préfigurer, c'est-à-dire l'Antichrist. Alors, D'après ce que l'ange Gabriel dit à Daniel maintenant, c'est que comprend parce que cette vision-là, elle va même plus loin que l'époque actuelle ou, bon, disons actuelle. Celle à venir à court terme, c'est beaucoup plus juste de le dire ainsi, mais elle pousse encore plus loin. Verset 18, « Or, comme il parlait avec moi, j'étais dans une profonde stupeur, ma face contre terre, et il me toucha et me fit tenir debout à la place où j'étais. » Donc, nous l'avons souligné, la frayeur que Daniel ressent à la vue de ces choses-là, mais la grâce de Dieu par cet ange qui le relève, il le tient debout. Et on voit ça souvent dans l'Écriture, hein, que par sa grâce, Dieu tient debout ses serviteurs. Et il ajoute, Gabriel ajoute au verset 19, et il dit, « Voici, je te fais connaître ce qui aura lieu à la fin de l'indignation, car à un temps déterminé sera la fin. » L'indignation dont il est question ici, c'est probablement la colère de Dieu. D'ailleurs, plutôt que indignation, dans les autres versions françaises, on a le mot colère plutôt ici. Et donc, c'est probablement la colère de Dieu contre la profanation d'Antiochus, mais aussi, à nouveau, on pousse plus loin, la colère eschatologique, appelons-la comme ça, celle qui va nous être décrite dans les détails, dans l'Apocalypse au sujet de la 70e semaine de Daniel, là où Dieu va déverser sa colère contre Israël et les nations, l'Israël incrédule, bien entendu, et les nations du monde. C'est un moment à venir plus tard à cause de cette alliance avec l'Antichrist, entre autres. Donc, probablement qu'on comprend que ce que Daniel est en train de dire, c'est que ce qui va se produire avec les Grecs a eu un sens préfiguratif de ce qui est à venir dans la fin des temps. C'est pour ça que Antiochus Épiphane est souvent appelé l'Antichrist de l'Ancien Testament ou de la période vétérotestamentaire, dans le sens où il préfigure un plus grand personnage que lui, mais qui fera aussi des ravages semblables à ceux commis par Antiochus Épiphane. Et c'est juste d'ailleurs de comprendre cela parce qu'on voit clairement que la profanation d'Antiochus Épiphane était une abomination de la désolation, après tout. Eh bien, c'est ce qui se produira dans une échelle encore plus grande avec l'Antichrist à la fin des temps. À partir de là, donc, en rappelant et en indiquant à Daniel que les événements de la vision concernent les deux royaumes successifs qu'on a vus, les Mèdes et les Perses suivis des Grecs, mais préfigurent chez les Grecs, préfigurent aussi les temps de la fin. Maintenant, Gabriel, donne des explications au sujet de la vision elle-même et des animaux, des bêtes vues dans cette vision, c'est-à-dire le bélier et le bouc. Et puis, on a déjà utilisé ces versets, je vais les passer très brièvement. Donc, verset 20. Le bélier que tu as vu, qui avait deux cornes, ce sont les rois de Médie et de Perse. C'est tout à fait clair ici, et on l'a vu en détail précédemment. Le bouc velu, c'est le roi de Javan, donc un nom de la Grèce antique qui vient de les Iones, je pense, mais j'ai vu rapidement tout à l'heure le nom là, duquel ça vient. Dans le dictionnaire de Pache, bon, je l'ai à proximité, sinon je ne suis pas trop long, allez voir ça. Je vais vous confirmer d'où ça vient. Ça vient, en fait, c'est Yavan. Et puis, qu'est-ce que ça nous dit? Oui, c'est les... Excuse-moi. C'est ça, les Ioniens. Les Ioniens. Donc, qui font partie là, du peuple grec antique avec les Éoliens, les Doriens, etc. Donc, c'est des peuplades grecques. Et puis, ça viendrait de là le nom Yavan en hébreu. Donc, c'est un dérivé de Ionien. Pache écrit ceci. « De tout temps, on a reconnu d'après la Bible et la tradition que le nom de Yavan n'est autre que celui des Ioniens, c'est-à-dire donc... des Grecs. Et puis, ces Ioniens-là, de par leur contact plus près avec les peuples asiatiques, on a englobé très rapidement, apparemment, ce nom-là qui a donné Yavan ou Javan pour décrire, en fin de compte, l'Empire grec, tout simplement. Alors, je pense que ça, c'est sans trop de contestation, le fait que Javan, c'est vraiment la Grèce. Et puis, de toute façon, toute la description qui s'ensuit, c'est clair. Là, il n'y a aucun doute avec les confirmations de l'histoire avec un grand H. Et donc, la grande corne qui est entre ses yeux, verset 1, c'est le premier roi, Alexandre le Grand. et qu'elle ait été brisée, que quatre autres cornes se soient élevées à sa place, c'est que quatre royaumes s'élèveront de la nation. On parle de la nation grecque, mais non avec la puissance d'Alexandre le Grand. Effectivement, ce sera partagé entre ces quatre généraux-là. Et verset 23 nous dit, « Et au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, il s'élèvera un roi au visage audacieux. » Vous vous rappelez-vous ce que j'ai insisté tout à l'heure dans le livre des Maccabées? À deux reprises, quand on décrit Antiochus Épiphane, on parle de son arrogance. C'est exactement ce dont il est question ici. L'expression « avoir un visage audacieux » signifie littéralement « être insolent » ou « être arrogant ». C'est pour ça que je voulais souligner cela dans la lecture du livre des Maccabées tout à l'heure. Donc, un roi au visage audacieux, fin du verset 23, et entendant les énigmes. Oui, c'est pas trop simple à comprendre. Et avant d'aller dans les versions, simplement de souligner que les transgresseurs qui vont combler la mesure sont simplement tous les Grecs, l'armée grecque sous le commandement d'Antiochus. Donc, à la fin de ce royaume-là, plus ça va aller vers la fin, bien entendu, à cause des guerres avec les Maccabées, tout ça, qui vont affaiblir beaucoup le royaume grec, eh bien, voilà, les transgresseurs n'ont pas fini, ils vont combler la mesure de leur mal, de leur péché, avec leur chef Antiochus qui vont souiller, profaner Jérusalem, le temple et toute la nation juive, comme on a pu le décrire tout à l'heure dans le livre des Maccabées. Maintenant, la version Darby là, qui nous dit « entendant les énigmes », je me suis dit « OK, ça veut dire quoi ça ?» Et puis j'ai regardé dans les versions françaises et puis je vais vous lire le verset 23 dans plusieurs versions françaises, juste pour qu'on voit un peu là, à quoi ça ressemble. La version second, en général, va utiliser les expressions « visage audacieux, entendant les énigmes », avec deux adjectifs, tout simplement, un roi impudent et artificieux. La Bible annotée, la Bible de Neuchâtel, dit un roi ferme de visage et sachant pénétrer les secrets. Intéressant comment c'est dit quand même. Révisé, c'est toujours la même chose, un roi insolent, artificieux. La Bible du Sommeur, un expert en intrigue. Intéressant ça. C'est un roi dur et expert en intrigue. La Nouvelle Français Courant, un roi arrogant. Ça, j'aime beaucoup ça, pour être franc, là. Un roi arrogant et expert en tromperie. Expert en tromperie. Voilà, je pense que c'est la version Nouvelle Français Courant que je préfère dans tout cela, parce qu'en réalité, le texte en hébreu, qui est aussi difficile, parle de l'art de tromper les autres. L'expression « entendre les énigmes », dans le sens d'être vraiment rusé, comme artificieux, là, on comprend, la version seconde a du sens aussi. Il est passé maître dans l'art de tromper les autres. Là. C'est vraiment... Chez nous, on dirait au Québec, c'est un wise, le gars, là, qui vient de l'anglais wise. Il est rusé, il est vraiment, il a le tour. Il sait comment s'y prendre, le gars, pour faire aboutir ses plans, ses stratèges, etc. Donc, voilà la description de Antiochus Épiphane. Et au verset 4, 24, pardon, ça se poursuit. Et sa puissance sera forte, mais non par sa propre puissance. Et il détruira merveilleusement. C'est bizarre, ça. Il détruira merveilleusement. Oh, c'est merveilleux comment tu détruis, toi. Et il prospérera et agira, et il détruira les hommes forts et le peuple des saints. Pourquoi il est dit non par sa propre puissance? Parce que c'est Dieu qui la lui permet. On dit souvent que le diable n'a pas de puissance intrinsèque, c'est celle que Dieu lui permet uniquement, puis ça c'est vrai. Pour tous les ennemis de Dieu, du peuple de Dieu, ils ne peuvent pas se vanter de dire « nous là, on est vraiment fort et puissant contre Dieu et contre son peuple ». Et puis bon, Dieu est plus fort, va remporter à la fin, mais on est quand même fort. Mais pas du tout. En fait, personne n'a aucune force devant le Seigneur. Personne ne peut tenir debout, pas même une fraction de seconde. Il peut jeter par terre n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand. Mais voilà, ça souligne à quel point, malgré toute la grandeur et la puissance d'Antiochus Épiphane et tout le mal qu'il fera à Israël, Ça ne vient pas de lui, cette puissance-là. C'est une puissance que Dieu, lui, permet dans ses plans souverains. Bon, détruire merveilleusement, là, à nouveau, là, heureusement que j'ai les versions pour me rabattre dessus parce que j'ai trouvé ça bizarre. La version seconde, ça dit, il fera d'incroyables ravages, prodigieux ravages, toujours dans la Bible à noter, incroyable destruction. Là, ça m'aide à comprendre dans le sens, c'est pas merveilleux dans le sens, waouh, c'est admirable, c'est donc beau, mais c'est plutôt merveilleux dans le sens, ça dépasse l'entendement tellement c'est grand, c'est incroyable, c'est fort, c'est des ravages extraordinaires, dit la Nouvelle Français Courant. Ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant tout ce qu'il va faire. Il va prospérer dans le sens qu'il va réussir dans tout ce qu'il fait. Il va agir, va continuer à agir. Il va détruire les hommes forts et le peuple des saints. Donc, puis il peut renverser à peu près n'importe qui se présente devant lui, mais toujours parce que Dieu le lui permet. Il ne peut pas aller plus loin. Et puis d'ailleurs, la limite, elle est imposée au verset 25. Et par son intelligence, il fera prospérer la fraude dans sa main. Donc, tu sais, tout à l'heure, on disait... Ouais, ça, c'est vrai qu'il est rusé, le gars. Il sait comment s'y prendre, tout ça. C'est un trompeur, un fraudeur professionnel, un expert. Ben, on le voit là, il va faire prospérer tout ça. Il va s'élever dans son cœur, façon de dire l'orgueil, l'arrogance. Et par la prospérité, il va corrompre beaucoup de gens. Puis ça se passe même d'après le livre des Maccabées qu'on a lu tout à l'heure. Il va même réussir à corrompre des Israélites parmi le peuple de Dieu. Pour les amener à l'apostasie, quoi. Donc, c'est assez terrible ce qu'il va réussir à faire. Et même, il va se lever contre le prince des princes. On a vu tout à l'heure une expression semblable quand on parlait du chef du peuple. Eh bien, probablement que c'est encore à nouveau la même chose, c'est-à-dire qu'on parle du Messie, voire Dieu lui-même ici. Mais, et il y a un « mais » à la fin du verset 25, là, on arrêtait là, on va se dire, mais lui, il va tout détruire et c'est final avec lui. Franchement, mais on est fichu, quoi. Il y a pas d'avenir. Mais c'est bien dit, il sera brisé sans main. Et cette expression-là, elle est claire dans la Bible, tout partout. Dès qu'on parle de qui n'est pas fait de main d'homme ou qui n'est pas fait avec la main ou qui est sans main, ben, c'est une façon de dire, c'est Dieu qui va agir. Et à nouveau, je vais vous faire une petite lecture dans les livres des Maccabées pour vous lire le récit de la mort d'Antioche Épiphane. Et vous allez voir que c'est Dieu qui le tasse de là et qui met fin à sa vie et à toute sa méchanceté, à toutes ses mauvaises œuvres. Je lis dans le premier livre des Maccabées au chapitre 6, verset 5. Je vais me rendre au verset 16. C'est alors qu'un messager arriva en Perse pour lui annoncer que les troupes envoyées en Judée avaient été mises en déroute. Donc, Antiochus Épiphane est en Perse, puis là, il apprend que ses armées sont encore vaincues par les Maccabées. Lysias s'y était rendu avec une armée particulièrement puissante, mais il avait reculé devant ses adversaires. Après avoir taillé en pièces les troupes royales, les Juifs leur avaient pris des armes, du matériel de guerre et beaucoup de butins, ce qui avait augmenté leur puissance militaire. Ils avaient même détruit la chose abominable, l'abomination de la désolation, que le roi avait fait construire sur l'autel du sanctuaire à Jérusalem. Ils avaient entouré le temple de hauts murs comme auparavant et ils avaient fortifié de la même façon Beth-Sour, une des villes qui appartenait au roi. Donc, autrement dit, ils reconstruisent les murailles, ils refortifient les villes après avoir expulsé les Grecs et les avoir vaincus. Quand Antiochus apprit ces nouvelles, il fut tellement stupéfait et bouleversé qu'il se jeta sur son lit et il en tomba malade. Il n'y a pas de main. Personne qui a fait de mal à Antioche Épiphane, ce n'est pas une main d'homme. Il en tomba malade, tant il était contrarié que les choses ne soient pas arrivées comme il l'avait désiré. De nouvelles crises de découragement le tinrent au lit durant plusieurs jours et il se rendit compte qu'il allait mourir. Dieu est en train là, de l'achever là, sur son lit. il fit venir tous ceux qu'il avait nommés amis du roi, donc des privilèges accordés à certaines personnes, et leur dit, « Je n'arrive plus à dormir. Je suis accablé par l'angoisse. J'ai d'abord cherché pourquoi je t'ai envahi par ces grandes vagues de désespoir. Car, l'arrogance, écoute bien ça, car j'ai fait du bien durant mon règne et on m'aimait. Mais, bon, il y a eu un moment de lucidité. Mais je me souviens maintenant de tout le mal que j'ai commis à Jérusalem. J'ai enlevé du temple les objets d'or et d'argent et j'ai donné l'ordre qu'on tue sans raison les habitants de Judée. Je sais que là est la cause de mes malheurs présents et que je mourrai de désespoir dans un pays étranger. » Alors il fit approcher Philippe, un des amis du roi, et il le chargea du gouvernement de tout son royaume. Il lui donna sa couronne, le manteau royal et l'anneau pour cacheter, à condition que Philippe prenne soin de son fils Antiochus et qu'il lui donne une éducation qui le prépare à régner. C'est là, en Perse, que le roi Antiochus mourut en l'année 149, qui correspond à 163 avant Jésus-Christ. Voilà! Il sera brisé sans main, disait Daniel, bien avant les événements, verset 25, c'est exactement ce qui est arrivé. Il s'est jeté sur son lit, il s'est senti mal, il s'est jeté sur son lit. Il n'y a personne qui a fait ça, c'est lui-même, il se jette sur son lit, puis il ne va pas s'en ressortir. Il va mourir là d'angoisse et de terreur, voilà, sous la main de Dieu dans un sens. Et puis là, le chapitre se termine avec ces deux versets, 26-27. Et la vision du soir et du matin qui a été dite est vérité. Bien entendu, c'est la révélation de Dieu. Et toi, sers la vision, car elle est pour beaucoup de jours. Les notes de la Bible de John MacArthur sont construites à partir originalement du texte de la New American Standard Bible, mais ces notes-là ont parfois été adaptées à la version seconde nouvelle édition de Genève, puisque c'est avec cette Bible-là que les notes ont été introduites. Et dans la version seconde nouvelle édition de Genève de ce verset 26, ça dit plutôt ceci, « Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. » Et MacArthur dit ceci dans sa note, « Puisqu'elle est révélée ici, il n'était pas question de la garder secrète, c'est-à-dire la vision, au sens littéral, mais de la conserver en tant que vérité importante, même si elle ne se vérifierait que bien plus tard. » En fait, MacArthur sa note, en réalité, vient conclure la question de tout à l'heure. Et puis, voilà, c'est pas qu'on la garde secrète dans le sens qu'on ne le dit pas, mais le sens va se comprendre davantage, plus pleinement, si je peux dire, bien entendu, quand les événements vont s'accomplir. C'est un peu ce que nous dit aussi Daniel ici à la toute fin. Et ça se termine, verset 27, « Et moi, Daniel, je défaillis et je fus malade quelques jours. Puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi et je fus stupéfié de la vision, mais personne ne l'a compris. » Et comme j'ai souligné tout à l'heure, il était stupéfié ou effrayé par tout ce qu'il venait de voir. Et puis, soit lui-même ou les autres, parce que là, les versions sont partagées, personne ne comprenait pleinement tout le sens de la vision. On pouvait savoir les grandes lignes, mais tous les détails ne pouvaient être connus puisqu'il s'agit d'événements qui étaient encore futurs au temps de Daniel et maintenant sont des révélations pleines pour nous à cause de l'histoire qui confirme ce que ces prophéties annonçaient clairement. Et puis, j'aime tellement de me rappeler que Jésus lui-même a mis son sceau d'approbation sur le livre de Daniel, simplement en citant un ou deux versets, en fin de compte, qui sont un texte de Daniel 9 et Daniel 12, on le verra plus tard, mais au chapitre 24, verset 15 de Matthieu, quand il dit « Et quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel », ça confirme quelque chose, c'est que Jésus donne le sceau d'autorité au livre de Daniel comme étant un livre inspiré en disant ces simples paroles. Eh bien, même si, on ne pouvait pas comprendre tous les détails, c'est la vérité, comme c'est dit dans le verset 26, c'est la vérité et l'histoire confirme que c'était bien la vérité. Simplement un petit mot pour dire que Daniel a dû prendre quelques congés peut-être à ses frais, parce qu'il était trop malade, mais il travaillait quand même au sein du gouvernement babylonien. N'oublions pas que le contexte de la vision est sous Belshazzar. Alors, quand il dit « je m'occupais des affaires du roi », il parle de Belshazzar et de ses responsabilités gouvernementales dans ce gouvernement-là, bien entendu. Alors, voilà pour ce qui concerne le chapitre 8. Avant de passer à un résumé maintenant en tenant compte de la structure du syllabus, peut-être une période de questions maintenant.
Volontiers, Gilles. Effectivement, il y a quelques questions. Un auditeur dit, si j'ai bien compris, tu as dit que les derniers versets auront aussi une application à la fin des temps. Dans oui, ce oui. cas, qui est le peuple des saints? Est-ce que ce sont les Juifs ou l'Église ou les deux?
Le peuple des saints, on doit toujours comprendre comme une expression se référant aux Juifs dans le contexte particulier, parce que même dans la fin des temps, l'Église ne sera pas soumise au règne puisqu'elle aura été enlevée, soumise au règne de l'Antichrist et à ses conditions. C'est le peuple juif et les saints de la période de la tribulation qui auront des choix difficiles à faire.
Merci. Une autre question. Ne peut-on pas dire que Daniel a compris la vision d'après les expressions utilisées dans les versets 16, 19 par rapport au verset 27?
Oui, parce que en fin de compte, le commandement que Gabriel reçoit, c'est de faire comprendre la vision. Oui, ça, c'est clair que Daniel pouvait comprendre la vision, mais pas forcément tous les détails de la vision, puisqu'on a les deux niveaux. Il y a le niveau de la compréhension générale, puis il y a le niveau de l'incompréhension des détails. Et c'est là-dessus que Daniel accroche, là, parce qu'il voit bien qu'il y a des choses qui lui échappent, puis il n'arrive pas à saisir pleinement ces choses. Parce que c'est toujours futur à son époque aussi.
Oui. Merci pour cette explication. Je poursuis encore avec une autre question. Certains commentateurs disent que au dernier temps du verset 23 se référerait à un temps futur où l'Assyrien serait une sorte de réplique d'Antiochus Épiphane. Dans cette même interprétation, le prince des princes du verset 25 serait Christ lui-même.
Oui.
Puis, question, faut-il donc bien y voir une réalisation prophétique à double détente?
Oui, moi je pense que c'est envisageable parce que de toute façon, c'est selon même la plupart des commentateurs, c'est clair que on voit l'accomplissement sous Antiochus Épiphane et bon, tous ceux qui gravitent autour de cette période, mais également une préfiguration, comme je l'ai mentionné, des temps à venir. Donc, on peut parler d'une prophétie à double référence.
Merci. Une autre question intéressante qui traite de la Bible annotée, hein, dont on connaît que le schéma eschatologique n'est pas forcément celui qui est exposé ici. Le verset 17 ne parle pas de la fin des temps, car il n'y a pas de mention de la gloire finale. Ce serait un temps de fin. De plus, l'Antichrist ne mourra pas tout seul à la fin. Y a-t-il d'autres arguments textuels pour voir ici l'Antichrist?
Ouf, c'est une question qui est basée sur une note qu'on trouve dans la Bible annotée. C'est bien ça?
Oui, sur le verset 17.
Écoute, je pense qu'il note la question, Nata, et puis si l'auditeur le permet, je vais...
okay.
Ouais, j'y reviendrai, parce que ouais, là, ça demande plus de réflexion.
Parfait. À 21h59, je clôt la période des questions-réponses, je te redonne la parole.
OK, merci. Juste pour dire que la Bible annotée, hein, on se rappelle que c'est écrit à une époque où... il y a beaucoup de gens qui remettent en question des choses dans la Bible, hein, puis qui c'était tellement un grand défi d'interprétation pour Frédéric Godet et ses collaborateurs que je me rappelle un commentaire de Douglas Virgin qui avait dit sans faire de compromis, on voit quand même un effort de Frédéric Godet d'admettre certains points de vue qui n'étaient pas nécessairement ses points de vue ou ceux des milieux les plus conservateurs, par exemple. Donc, c'est vrai qu'on devrait tenir compte de ça parce que peut-être que la pensée libérale était tellement forte et puis que ce pauvre Frédéric Godet était un peu tout seul dans son époque. Puis avec ceux qui ont collaboré avec lui, écoute, c'est possible que quelque part, ils ont admis certaines, moi, peut-être certaines positions d'interprétation qui seraient légèrement différentes sans que ça exige un compromis avec la foi ou la position conservatrice. Simplement de positions différentes, oui. Mais je vais quand même examiner ça plus en détail puis y revenir. Assure-toi simplement que l'auditeur, Nathan, il a la question très claire sur papier. Merci. Maintenant, OK, ce que j'aimerais faire, c'est de revenir au syllabus de cours pour les 15 dernières minutes qui nous restent. Et puis, je me permets simplement un résumé en suivant cette structure-là. Pour que, en fait, je vais simplement revenir sur les points, mais d'une façon plus condensée, pour insister sur certains détails aussi, peut-être qui n'ont pas été mentionnés, mais de manière à marteler un peu là, la compréhension du chapitre 8 pour qu'on puisse faire suite avec les chapitres qui vont suivre et que tout soit le plus clair possible. Mais même pour nous, franchement, en lisant tous ces textes-là, on se rend compte que oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails et puis il y a certainement des choses qui peuvent nous échapper en cours de route. Alors, quels sont les éléments de la vision? C'est la première, en fait, c'est le premier bloc là, qu'on a, le premier espace dans votre syllabus. On remarque premièrement dans les éléments de la vision que c'est une vision qui a été donnée dans la troisième année du règne de Belshazzar. Donc, ça, c'est vers la fin de l'Empire babylonien. C'est avant la chute du chapitre 5, mais c'est après la vision du chapitre 7 de Daniel qui avait donné la première vision. Donc, on est dans la troisième année, c'est la dernière du règne de Belshazzar, c'est la toute fin de l'Empire babylonien. Et dans cette vision-là, donc Daniel se voit à Suse, bon, même si on lira un commentateur où on pense qu'il est à Suse, c'est pas grave non plus, mais je vois que la plupart pensent que c'est il se voit à Suse sans y être. Et puis voilà, c'est la capitale perse qui est mentionnée dans les livres d'Esdras, Néhémie, Esther, comme on a dit tout à l'heure. Le bélier avec deux cornes, dont l'une était plus haute que l'autre et qui frappait vers l'ouest, le nord, le sud, eh bien, on a vu que c'est l'Empire médo-perse. Et puis, les Perses sont la corne plus haute puisqu'ils sont le peuple dominant, surtout dans la seconde partie de la vie de cet empire, si je peux le dire comme ça. Et puis soudainement, on voit dans cette vision arriver un bouc à toute vitesse de l'ouest, et ce bouc avec cette seule grosse corne entre les yeux qui détruit le bélier, devient puissant, c'est l'empire d'Alexandre le Grand, l'empire grec, hein, dont Alexandre est le premier roi. Et puis ensuite, on voit que la grosse corne est brisée, qu'il y a quatre petites cornes qui s'élèvent à la place. Ce sont les quatre principaux généraux qu'on a mentionnés tout à l'heure, Ptolémée, Séleucos, Cassandre et il m'en manque tout le temps un, là. Ninimaque, je ne sais pas trop. En tout cas, vous savez c'est qui, je l'ai dit tout à l'heure. Puis je l'écrirai dans un email si vous voulez. Bon, Lysimaque, bon, voilà, ça vient de me revenir. Je ne sais pas pourquoi j'arrive toujours à les oublier, ces deux-là. Mais en fait, ce n'est pas grave parce que les deux qui sont le plus important là-dedans, c'est bien Ptolémée et Séleucos et les dynasties issues de ces deux généraux-là, puisqu'ils sont dominants dans le récit de Daniel 11 en rapport avec l'histoire d'Israël. Bon, mais quand même, l'histoire nous confirme qu'on sait de qui on parle quand on voit ces quatre cornes plus petites qui s'élèvent à la place d'Alexandre le Grand. Et de l'une de ces cornes, c'est-à-dire de celle de Séleucos, des Séleucides, arrive cette petite corne avec toutes ces mauvaises actions qui sont décrites dans le texte. Ensuite, on a la signification dans la structure du chapitre 8, la signification du bélier et du bouc qui va suivre. Et c'est vraiment bien indiqué dans le texte lui-même. Le bélier, c'est l'Empire médo-perse, qui correspond à la poitrine et au bras d'argent de Daniel 2 dans la vision de la statue métallique, et qui correspond aussi à l'ours qui se tient sur un côté dans Daniel 7. Remarquez cet aspect de double élément qui revient constamment avec l'empire médo-perse, puisqu'il y a deux peuples qui sont dans cet empire-là. On a les deux bras de l'image métallique. On a l'ours qui se tient sur un côté, ce qui implicitement indique qu'il y a deux côtés, mais il se tient sur un côté. C'est le côté le plus fort, celui des Perses. Le bélier, donc, avec les deux cornes, dont l'une est plus haute que l'autre, donc on a toujours ce double élément qui revient. Les Perses ont pris le leadership sous Cyrus le Grand, et c'est un empire qui s'est dirigé depuis l'Orient vers l'Ouest, depuis sa terre d'origine, donc vers l'Ouest, et puis le Nord en Asie mineure, et puis au Sud en Égypte d'une façon particulière. Rappelons-nous que ce sont des événements qui sont toujours futurs au moment où Daniel reçoit cette vision et écrit les grandes lignes de ces événements-là. Puis là, après, ben, dans la description des détails et de l'explication, signification de ces visions-là, il nous parle aussi, bien sûr, du bouc qui arrive de l'Ouest, qui est l'Empire macédonien ou grec, la grosse corne étant Alexandre le Grand. Et quand son père, Philippe de Macédoine, a été assassiné, Alexandre a succédé en tant que nouveau leader de la Ligue helléniste. Et donc, ce qui était en train de former, en réalité, les bases même de l'Empire grec. Et puis, Alexandre va marcher vers l'Est et va complètement détruire cette puissance des Mèdes et des Perses. C'est aussi, il va aussi aller vers le Sud, vers l'Égypte, où il va fonder, entre autres, Alexandrie. Et puis, Alexandrie, c'est encore une ville très importante à l'époque du Nouveau Testament. Elle est mentionnée dans Actes 18. Verset 24. Et partout où Alexandre allait, il implantait la langue et la culture grecque et il fondait aussi des cités. Puis, dans sa providence, Dieu a utilisé les conquêtes d'Alexandre le Grand, la culture d'Alexandre le Grand, il a utilisé la langue d'Alexandre le Grand pour préparer la voie à la composition du Nouveau Testament grec. Hein, on réalise que le Nouveau Testament a été donné dans la langue et la culture grecque, donc des vestiges de l'empire d'Alexandre le Grand. C'est assez remarquable quand même que malgré tout le tort que cet empire-là va faire au peuple de Dieu, c'est de la culture de ce peuple que va naître notre Nouveau Testament rédigé en grec sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alexandre, on le sait, est mort en 323, à l'âge de 33 ans à Babylone. Ensuite, dans vos notes de cours, pour le résumé, nous parlons des quatre cornes et de la petite corne. Donc, on revient sur ces détails, martelons cette vérité. On sait qu'il y a eu quelques années de guerre entre les généraux grecs de l'armée d'Alexandre, puis des sept principaux généraux, il y en a quatre qui vont émerger pour être ses successeurs. Et donc, l'Empire d'Alexandre va être divisé en quatre parties et deux de ces royaumes-là ou de ces parties de l'Empire d'Alexandre vont avoir un rôle important du point de vue de la Bible et du point de vue de l'histoire d'Israël. Donc, les Ptolémées en Égypte et les Séleucides en Syrie. Et on verra dans le chapitre 11 de Daniel l'histoire prophétique de ces deux branches de l'Empire grec où on trouve beaucoup de détails dans Daniel 11. Et déjà, peut-être, si ça vous intéresse, vous lirez d'avance, si vous l'avez bien entendu, mais le commentaire biblique du chercheur nous présente tout un tableau complet de cette succession de rois, autant chez les Séleucides au nord, en Syrie, que chez les Ptolémées au sud, en Égypte. Très bien fait ce tableau et franchement, il y a une concordance entre l'histoire générale, l'histoire humaine et bien sûr la révélation de Dieu dans les Saintes Écritures. Mais ici, dans la vision de Daniel, l'accent est mis sur cette petite corne qui émerge depuis la lignée de Séleucos qui avait établi sa capitale justement à Antioche en mémoire de son père. Une ville fameuse dans le Nouveau Testament, hein, c'est la ville où on trouve l'église d'origine de Paul, de Barnabas et de beaucoup d'autres aussi. Et donc, Antioche le quatrième, Épiphane en réalité c'est un surnom qui parle de gloire, de manifestation glorieuse, mais les Juifs avaient transformé cela en Épimane, qui veut dire le fou. Antioche le fou. Donc, il l'insultait en modifiant un peu son surnom glorieux. Eh bien, Antioche Épiphane, c'est lui, la petite corne du chapitre 8 de Daniel, et dont il sera question à nouveau au chapitre 11 aussi, du même livre. Et là, comme je l'ai souligné, ne confondez pas les deux petites cornes des chapitres 7 et 8, même s'il y a un lien entre les deux d'un point de vue préfiguratif. Mais au chapitre 7, c'est directement de l'Antichrist de la fin des temps dont il est question, alors que dans le chapitre 8, c'est avant tout d'Antiochus Épiphane qui préfigure aussi la petite corne du chapitre 7. Donc, ça peut devenir mêlant un peu, mais chapitre 7, l'Antichrist, chapitre 8, Antioche, qui préfigure l'Antichrist, mais qui est un personnage historique pour ne pas simplement faire d'Antioche Épiphane une projection vers la fin des temps et conserver l'aspect historique qui était hyper important pour la succession des royaumes qui allaient dominer sur Israël et nous aider à mieux comprendre aussi toute la culture helléniste qui s'impose par la suite et pourquoi il y avait cette animosité entre les Hébreux et les hellénistes à cause de ceux qui avaient adopté des éléments de culture grecque, c'est-à-dire les Juifs hellénistes, qui étaient méprisés par les Juifs hébraïques, donc de nature plutôt, on disait Juifs, purement Juifs, disons, contrairement à ceux qui adoptaient des éléments de la culture grecque. Donc, concernant la fameuse petite corne de Daniel 7, qu'on avait vu qui est l'Antichrist et que Antioche peut préfigurer aussi, eh bien, on sait que la petite corne Antichrist de Daniel 7, eh bien, elle sera pleinement manifestée dans la forme finale du quatrième empire, c'est-à-dire la quatrième bête, la forme finale de Rome, qui n'est pas forcément Rome, mais disons qu'il y a des éléments communs clairement avec Rome. Ça, il n'y a aucun doute. Antioche Épiphane, on peut certainement dire qu'il a été l'un des pires persécuteurs des Juifs dans toute leur histoire, une persécution qui a duré environ de 171 à 165 avant Jésus-Christ. Et il manifestait sa haine non seulement contre le peuple de Dieu, mais contre Dieu lui-même. Et comme il a été suggéré dans un commentaire d'un auditeur et aussi, comme je l'ai mentionné en cours de route, probablement le Messie même est ciblé, ou l'espérance messianique est ciblée par sa persécution, voire Dieu lui-même. L'histoire nous apprend, entre autres dans le livre des Maccabées, qui avait poussé la profanation du temple jusqu'à placer une statue de Zeus dans le temple et en sacrifiant un porc sur l'autel même du temple. Alors, ce sont vraiment des abominations qu'il a commises. Et c'est un peu à cette image que l'Antichrist de la fin des temps commettra aussi des choses abominables comme celle-là en brisant l'alliance avec Israël et en mettant fin au sacrifice du temple et en instaurant le culte de la bête, qui sera très clairement un culte religieux de dévotion et d'allégeance envers la bête. Rien de subtil dans tout ce qui est à venir à ce sujet-là. Et la dernière section de votre syllabus vous parle des 2300 jours. Et de cette vision-là, donc, on apprend que le sacrifice quotidien au temple va être arrêté et profané pendant cette période de 2300 jours, si on adopte la compréhension de John MacArthur, ou bien peut-être simplement de parler de 2300 sacrifices matin et soir. Et donc, ça se rapporterait, si j'ai bien compris le commentaire biblique du chercheur, à une période avoisinant plutôt les 1500 jours, à peu près la moitié, quoi. Et puis, quoi qu'il en soit, la période elle-même, elle est très clairement identifiée. C'est la période depuis la profanation du sanctuaire par Antioche Épiphane jusqu'à la révolte des Juifs sous la conduite du sacrificateur nommé Mattathias, qui est le père de Judas Maccabée et de ses frères. Et donc, les Maccabées, c'est cette famille qui vont lutter pour l'indépendance d'Israël face aux Grecs d'Antiochus Épiphane. Et on a lu tout à l'heure même la victoire qu'ils vont avoir sur Lysias et puis le désespoir dans lequel cela va plonger Antiochus Épiphane qui en mourra même sur son lit en terre étrangère. Donc voilà pour les 2300 jours, c'est vraiment la période de profanation du sanctuaire par Antiochus Épiphane, et c'est à cela que ça se réfère. L'histoire nous confirme l'accomplissement de ces prophéties. L'historien juif Joseph Flavius, au premier siècle après Jésus-Christ, l'a aussi confirmé. Et puis, on a des récits historiques qui nous confirment aussi tout ce développement. Voilà. Mais on garde à l'esprit qu'il y a une portée préfigurative de cet Antioche Épiphane vers l'Antichrist de la fin des temps. Et on développera certainement cette thématique un petit peu plus loin dans notre étude. Voilà, nous sommes un petit peu dépassés le temps, mais c'est ici que se termine le cours d'aujourd'hui. Et puis, vous êtes invités à lire le chapitre 9 pour la session suivante. Et là, on rentre dans la prophétie des 70 semaines. Pouh, ça, c'est passionnant.
Un grand merci, Gilles, pour ton enthousiasme. Merci aussi à tous nos participants pour leur patience ce soir. Parfois, on a fini un peu plus tôt. Ce soir, on a un petit peu débordé. Ça arrive. Donc, merci pour votre patience. J'aimerais vous souhaiter, de la part du comité Biblos, une belle fin d'année, des belles fêtes, même si c'est peut-être un petit peu confiné ou à moitié confiné. Que le Seigneur vous bénisse aussi durant ce temps de vacances. Et puis, on se réjouit de vous revoir donc le lundi 10 janvier pour le prochain cours. Et je vais laisser Stéphane, qui est à côté de moi, conclure par la prière ces moments. Et ainsi, la soirée sera terminée.
Oh Dieu, notre Père, merci pour ces moments bénis que tu nous donnes. Merci. Béni Seigneur Gilles Despins avec son savoir qu'il donne, qu'il distille et qu'il nous enseigne. Merci Seigneur pour cela. Merci aussi de nous avoir donné aujourd'hui un cours qui fut très instructif pour notre foi, même si des fois on ne comprend pas aussi bien que Gilles peut l'expliquer. Donc aussi, au Dieu notre Père, je te demanderai de bénir chaque personne qui a suivi le cours ce soir, ainsi que de bénir Gilles Despins qui donne beaucoup de son cœur, de son âme et de sa personne. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Merci à chacun de vous aussi, puis merci d'avoir été là. Merci d'être présent à ce cours, hein, puis c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir passer ce temps avec vous, puis je vous souhaite de très joyeuses fêtes aussi, puis un heureux temps près du Seigneur.
Bye, merci. Bonne soirée à tous. Revoir.